Bienvenue à cette rencontre dans le cadre des conférences de la chaire LR Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique, mais aussi du centre de recherche en droit public. Alors, l'activité d'aujourd'hui, c'est une conférence de Daniel Boursier. Sans doute que plusieurs d'entre vous connaissez Daniel Boursier par ses travaux, puisqu'on lui doit un très grand nombre de travaux et de réflexions auxquelles on revient souvent sur ses relations et ses rapports entre le droit et la technique, le droit et la technologie. Et à cet égard, on lui doit des travaux pionniers sur cette thématique et sur ce binôme droit-technologie. Elle me rappelait qu'à l'époque où elle dirigeait une revue qui s'appelait la revue Langage, elle avait publié un article de Yann Mackay sur les notions floues en droit et l'économie de l'imprécision. Un article que nous utilisons, enfin que plusieurs d'entre nous ont lu et médité. En
79.
En 79, donc.
Ça fait.
Plus récemment, elle a publié un livre qui s'appelle
International Commons ou le...
Creative Commons. Elle est responsable de Creative Commons en France, donc ça, là-dessus, on ne se trompe pas. Et elle est actuellement au centre Max Bloch à Berlin, comme directrice de recherche. Elle est de façon régulière directrice de recherche au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives, qui est rattaché au CNRS et aussi à l'Université de Paris 2. Et donc, nous sommes d'abord bienvenus, nous sommes heureux de l'avoir avec nous pour cette activité. Alors, comme vous le savez, notre activité est toujours informelle, quelques propos de notre conférencière, et par la suite s'engagera questions et discussions. Tout cela se fait évidemment dans la plus grande convivialité. Alors, nous enregistrons les propos qui sont tenus, non pas dans le but de les retenir contre vous ou contre notre conférencière, mais tout simplement parce que par la suite, nous les diffusons sur le site web de la chaire LR Wilson, sous forme de fichiers audio pour ceux qui souhaitent, soit qui ont pas pu être avec nous, ou qui souhaitent réentendre les propos. Alors, Daniel Boursier, bienvenue.
Merci Pierre, et merci aussi de cette invitation. Ça me fait toujours plaisir de me retrouver au Québec, et notamment dans ce lieu que je connais depuis fort longtemps. Effectivement, je travaille avec plusieurs personnes du centre, compris on évoquait aussi Daniel Poulain, je l'ai connu quand il préparait sa maîtrise, donc c'est assez ancien. Et puis, disons, je me souviens, la première fois, je crois que c'est dans les années 70, c'était, j'étais encore étudiante, je vais ajouter pudiquement, et c'était Datum, c'était les Thésaurus, c'était les premières banques de données, je ne sais pas, qui, à mon avis, maintenant, sont devenues complètement commerciales, je crois, hein. C'est Soquige, voilà. Alors, avec une évolution qui a effectivement un peu divergé en France, mais pas vraiment, puisque c'est une concession, c'est aussi entre le partenariat public et le partenariat privé, disons. Voilà. Et à ce moment-là, on se posait déjà des questions sur le langage, et on faisait des thésaurus, mot qui maintenant est traduit en ontologie, mais qui veut dire pratiquement la même chose. Hein, c'est-à-dire, voilà. Bref, alors j'ai proposé un sujet qui est proche de l'article que j'ai publié dans la revue Lex Informatica ou Electronica. Informatica.
Electronica,
parce que deux termes quelquefois. Et donc je l'ai repris, mais j'ai ajouté quelque chose. Parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses en France depuis quelques mois. Et j'allais ajouter aussi, finalement, rien de nouveau. pourquoi rien de nouveau? De grandes démonstrations populaires, vous avez sûrement entendu parler, contre la flexibilité dans un État inflexible, qu'est-ce que ça donne? Et un rapport sur la complexité du droit, autre avatar qui, effectivement, est un événement assez récurrent, faire des rapports sur la complexité du droit. Ce rapport vient de sortir, je ne vais pas apporter, il est un peu lourd. C'est le rapport annuel du Conseil d'État qui s'intitule justement précisément « Sécurité juridique et complexité du droit » et il est publié à la documentation française, comme d'habitude, 2006, avril 2006. Mais comme l'histoire ne se répète pas, contrairement à ce qu'on croit, on pourrait dire que finalement ces mêmes non-événements, à la fois des grandes manifestations et un rapport sur la complexité du droit, s'inscrivent dans un contexte assez différent dans l'histoire. Pourquoi? Je vais passer sur les démonstrations populaires, ce n'est pas le sujet ici, mais je vais surtout m'intéresser à la complexité du droit, à la fois la permanence des rapports, de la déploration, j'allais dire, de la complexité du droit, et des solutions qui sont périodiquement proposées, mais qui, en fait, comme le dit le dernier rapport, finalement ne fait que complexifier la complexité du droit, etc. Bref, on a l'air de très très mal s'en sortir, et au point même où je pense qu'il va falloir changer de paradigme, comme on dit en science, puisque le même paradigme parlant de la complexité comme un désavantage, un inconvénient absolu, on peut aussi le tourner, c'est ce que je vais essayer de faire, en faisant un paradigme nouveau, qui d'ailleurs existe dans les sciences, et qui permet d'aborder un peu différemment la question de la complication, de l'évolution, de la dynamique des phénomènes, la question aussi de l'incrémentalisation, je pense que c'est un barbarisme ou un gallicisme tout au moins. Donc, ce que je vais essayer d'exposer un peu devant vous, là, c'est une réflexion qui m'est venue à la suite de ce rapport, en le lisant et en me disant, mais on va encore parler longtemps de la complexité du droit comme quelque chose de négatif, qu'on ne peut pas surmonter, tous les outils, aucun des outils ne marche, certainement il faut en parler autrement. Voilà. Alors, d'abord, quelques mots sur les différentes étapes de cette déploration de la complexité du droit. 1991, un autre rapport du Conseil d'État qui s'intitulait « De la sécurité juridique ». Le ton était vif. Je me souviens, j'étais à ce moment-là au Conseil d'État dans cette équipe de recherche. Et je me souviens d'étudiants, de vacataires, de stagiaires qui mesuraient avec des centimètres les journaux officiels. Donc, c'était vraiment un travail très quantitatif sur l'évolution du droit. Le ton avait un peu étonné par des formules chocs, comme la notion de droit jetable, etc. Mais il était écrit par quelqu'un qui allait devenir un écrivain célèbre, et le message était passé. Entre-temps, 99, 7 ans après, un arrêt du Conseil constitutionnel qui a fait un peu de bruit dans le milieu aussi des gens qui s'occupent de la complexité du droit, c'est la mise en scène de nouveaux principes qui ne sont pour l'instant que des objectifs à valeur constitutionnelle et non des principes constitutionnels, et qui étaient l'accessibilité et l'intelligibilité du droit. Ça, c'était une étape importante. 2002, trois ans après, c'est le Légifrance, l'ouverture de Légifrance comme service public, justement, d'accès au droit, et donner comme solution à justement cette insécurité, cette inaccessibilité du droit. 2005, le Conseil constitutionnel réitère ses normes de méthode et une partie de la loi de finances, qui est en général, qui intervient dans les derniers jours de l'année, donc elle est considérée dans un de ses articles comme anticonstitutionnelle. Et pour quelle raison? Une raison qui est tout à fait nouvelle, la complexité excessive. Depuis 2006, le Conseil d'État a aussi agi dans ce domaine. Le Conseil d'État, pas du côté du rapport, mais du côté du contentieux, puisqu'une décision du 24 mars 2006 a consacré le principe de sécurité juridique. Un de mes collègues de Paris 2 a fait un article sur ce concept de sécurité juridique comme concept clandestin. Effectivement, on le cherche partout en droit, il n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État? Il a jugé que le décret du 16 novembre 2005, qui approuvait un code de déontologie des commissaires aux comptes, était illégal. Et pour quelle raison? Faute d'avoir prévu des mesures transitoires pour son application au contrat en cours. Donc, le fait de ne pas prévoir une sorte de phase de lien entre l'ancien système et le nouveau est considéré comme effectivement annulable parce que donc introduisant des éléments d'insécurité juridique. C'est complètement nouveau. Hein. Alors, la réflexion d'un grand essayiste a été citée amplement dans la conclusion du rapport du Conseil d'État qui vient de paraître, et je vous la cite. Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il en faudrait à régler tous les mondes d'Épicure. Qu'ont gagné nos législateurs à choisir 100 000 espèces et faits particuliers, et y attacher 100 000 lois, d'où le titre de cette intervention. Ce nombre n'a aucune proportion avec l'infinie diversité des actions humaines. La multiplication de nos inventions n'arrivera pas à la variation des exemples. Il y a peu de relations de nos actions qui sont en perpétuelle mutation avec les lois fixes et immobiles. Le plus désirable, finit-il, ce sont les plus rares, simples et générales, les plus rares étant les lois. Et cette réflexion est d'un essayiste bien connu, puisque c'est Montaigne, dans les essais qui, je le rappelle, ont été écrits entre 1580 et 1588, pendant 8 ans, je ne sais pas si vous êtes allé à Bordeaux, dans cette tour étrange qui est assez émouvante. Il écrivait des phrases sur les pierres de sa pièce ronde. Voilà. Alors, M. Montaigne considérait déjà que une chose intéressante, parce que c'est cette indignation qui, moi, me paraît très significative. Elle n'est pas politique, elle n'est pas philosophique, elle est, j'allais dire, presque cognitive, pratique, pragmatique. Pourquoi chercher, dit-il, en fait, à entrer dans les détails des faits ? Nous n'arriverons jamais à recouvrir toutes les situations. On sait que les gens en intelligence artificielle se sont heurtés déjà à cette question. Comment décrire le monde pour que les faits puissent être saisis par une machine. Si on doit écrire cas par cas une loi, cas par cas, ce n'est plus une loi. Donc on est dans ce vrai paradoxe. Alors que conclure de ces tendances ? Alors pourquoi j'ai rapproché ces éléments sur l'insécurité, sur l'inintelligibilité du droit, la surabondance des lois, et puis cette réflexion de Montaigne. Alors, là aussi, il y a une déploration de la part de Montaigne, mais déjà, je trouve que cette idée va vers un peu plus de solutions. Hein. Et ce que je vais essayer de faire dans ce petit exposé, hein, j'espère petit, il faudra m'arrêter, hein, si je parle trop, c'est que je voudrais introduire comme élément de solution la pensée complexe d'Edgar Morin. Je ne sais pas si vous connaissez Edgar Morin, mais je pense qu'il a maintenant plus de 80 ans et sa pensée est toujours aussi fraîche. Moi, personnellement, au début, je trouvais ça presque tautologique. Et plus je lis Morin, plus je trouve qu'il a dit des choses très simples, mais assez fondamentales, et à mon avis, qui font date et qui nous aident dans toutes nos disciplines. Et je pense que la pensée complexe de Morin appliquée au droit, ce sera sûrement un des prochains articles, voire livres, que je compte faire, parce qu'il y a trop de choses intéressantes dans sa pensée pour que les juristes ne puissent pas s'en servir. Alors, j'ai fait référence à cette pensée complexe à partir de son introduction, hein, qui est sortie donc, dans un tout petit volume, en 90. Alors, que dit-il de la pensée complexe ? Nous demandons légitimement à la pensée qu'elle dissipe les brouillards et les obscurités, qu'elle mette de l'ordre et de la clarté dans le réel, qu'elle révèle les lois qui le gouvernent. Le mot de complexité, lui, ne peut qu'exprimer notre embarras, notre confusion, notre incapacité de définir de façon simple, de nommer de façon claire, de mettre de l'ordre dans nos idées. Alors, il ajoute que la connaissance scientifique fut longtemps et demeure encore souvent conçue comme ayant pour mission de dissiper l'apparente complexité des phénomènes, et afin de révéler un ordre simple. Et de même, je pense qu'en droit, on est encore sur ce grand paradigme de l'horloge, hein, l'horloge, la mécanique, cette idée de la loi comme un parfait rouage susceptible de traiter toute la complexité du monde, en fait. Hein. Donc la loi avait pour objectif de donner le principe général qui permet de s'appliquer à l'infinie diversité des situations. L'idée même des rédacteurs du Code civil, c'était de faire dans un texte, en fait, de rendre ce texte complet, cohérent, capable d'appréhender toutes les situations du monde. Et évidemment, toute l'école de l'exégèse, enfin, fin 19e, a repris, dont Huc a repris toute cette idée. Toute cette idée, donc, restons sur les termes de la loi, puisque tout est, en fait, conçu dans ces termes. Il suffit de les prendre et de les développer, et on sera toujours dans la loi. Évidemment, derrière, il y a un léger subterfuge. Mais, quand même, c'est un principe d'interprétation comme un autre. Alors, ce que disait, en fait, Edgar Morin, c'est que est complexe, ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. Et il, justement, il pensait que l'idée, c'est de ne pas simplifier, mais c'est de, d'aborder, de défier le complexe. Hein. La plus grande erreur, ça serait de vouloir simplifier ce qui est complexe. Et ça, c'était un paradoxe intéressant. Hein. On est toujours, et là je reviens à tous ces rapports sur la complexité du droit, c'est en fait toujours la solution, il faut simplifier le droit. Et je crois qu'on n'y arrivera jamais. C'est pas, à mon avis, c'est la façon d'aborder la question qui ne va pas. Hein. Il faut essayer de raisonner autrement. C'est pas évident, mais c'est effectivement, comme il le dit lui-même, un défi. Donc il ne s'agit pas de reprendre l'ambition de la pensée simple, qui était de contrôler et de maîtriser le réel. Hein, parce que c'était ça l'ambition, hein, de faire une loi qui puisse être contrôlable, qui contrôle le réel en même temps, et de le maîtriser. Il s'agit de s'exercer à une pensée capable de traiter avec le réel, ce qui est tout à fait différent, de dialoguer avec lui et de négocier avec lui. Ça, c'est la pensée d'Edgar Morin. Alors, les quelques caractéristiques, vous verrez que je reprendrai dans la suite, de la pensée complexe, je vais les donner, les énumérer très, très rapidement, sans m'étendre. Donc, la première idée, c'est de croire que la complexité est incompatible avec la simplicité. Non, elle peut être compatible, dit Morin. C'est tout à fait possible. Il faut seulement refuser les conséquences mutilantes, réductrices, unidimensionnalisantes et aveuglantes d'une simplification. Donc, c'est possible. Simplifier et garder cette complexité. Simplifier, pardon. Garder la simplicité et la complexité ensemble. La deuxième illusion, hein, serait de confondre complexité et complétude, de vouloir toujours être dans le complet. Hein. Alors, l'idée, c'est que la connaissance complète est impossible, et un des axiomes de la complexité, hein, de la théorie des systèmes complexes, pour être plus clair en physique, qui s'est développée, c'est l'impossibilité d'une omniscience. Hein. Elle comporte la reconnaissance d'un principe d'incomplétude et aussi un principe d'incertitude. Et ça, c'est le troisième principe. La complexité implique l'incertitude. L'idéal de la connaissance classique, scientifique, était de découvrir d'ailleurs la complexité des phénomènes à un ordre parfait, on l'a dit. Ceci n'est possible que pour les systèmes clos et non les systèmes ouverts. On parle de sécurité, mais nous sommes déjà dans l'incertitude des systèmes d'évolution de la société. Un quatrième point qui me paraît aussi très important, c'est le problème de l'évolution. La complexité implique la dynamique. Les systèmes complexes sont des systèmes dynamiques. Vous connaissez l'idée de la théorie du chaos, qui est bon, cette fameuse aile de papillon qui provoque des tempêtes à des milliers de kilomètres. Eh bien, c'est l'idée fondamentale des systèmes complexes. C'est les idées de... on ne peut jamais prévoir, il y a une indétermination fondamentale, même quand les systèmes sont vus de façon probabiliste, etc. Il y a toujours une part d'incertitude. Et au fond, c'est aussi le théorème de Gödel, je pense que sans rentrer dans les détails, ce théorème qui aboutit à l'idée qu'un système axiomatique complet est impossible. Pour le rendre complet, il faut aller sur un métaniveau. Mais le problème, c'est que le métaniveau sera aussi, lui, incomplet. Donc on est toujours dans une incomplétude. Alors, en fait, l'idée, c'est aussi une autre idée de Morin que j'aime bien, c'est que la complexité désigne ce qui est de grandes complications en se référant à un grand nombre de composants et un comportement imprévisible. Donc, on ne peut exercer un contrôle car on ne peut en avoir une connaissance entière. Et il dit, un tas de sable n'est pas complexe, mais une cellule du corps l'est. Et donc, pour lui, il faut traiter la complexité par de nouveaux modèles. Et un modèle, c'est quoi? C'est une fonction de connaissabilité, une forme intermédiaire explicite qui permet de passer du phénomène du phénomène, donc de la réalité, à une forme conceptuelle, de prévoir son comportement, de transmettre son comportement à d'autres observateurs. Il faut accepter et jouer le défi du complexe. Donc, dit à la fois Alain Cardon, qui a écrit un très beau livre sur, bon, certaines parties sont un peu compliquées, je veux dire, mais sur la complexité organisée. Voilà, alors gouverner le droit, si je reviens au droit, ça serait donc non un paradoxe anticonstitutionnel, comme c'est posé, mais un impératif informationnel et épistémologique. Et c'est un peu cette idée qu'il va falloir creuser, hein. Je cite aussi cette phrase de Luhmann, que je trouve parfaitement intéressante aussi. Le droit est un système clos, mais normativement clos, pardon, mais cognitivement ouvert. Donc effectivement, cette tendance à faire des systèmes de normes cohérents, clos, prédéterminés, complets, et complètement remis en cause, et on le sait, le rôle du juge, c'est bien sûr cela, hein, c'est d'apprécier, d'interpréter. Et c'est pour ça qu'il ajoutait dans cette phrase « système normativement clos, mais cognitivement ouvert ». Alors, je vais voir deux choses dans, essentiellement. Une première partie où je parlerai des, au fond, si le droit est un système, et c'est un système, comme on le sait, auto-organisé, un système, Hart disait qu'il y avait un niveau des règles secondaires et un niveau des règles primaires. C'est-à-dire que c'est un système capable de s'auto-représenter, mais c'est aussi un système qui est capable de s'auto d'auto-évoluer, c'est-à-dire de faire des règles pour lui-même se changer. Alors on pourrait imaginer, mais au fond, est-ce que le droit lui-même est capable de se changer? Et je signale aussi que dans ce rapport du Conseil d'État il y a un mois, ce qui m'a complètement surpris comme solution, c'est quand même un beau paradoxe, c'est de dire, puisque nous sommes en conclusion, puisque nous sommes dans un droit écrit, il n'y a pas d'autre solution pour régler cette question de la complexité, d'écrire une loi d'élaboration du droit qui permet de simuler cette complexité. Donc on n'en sortira pas. Hein. Donc, voilà, je voudrais dans un premier rapport, est-ce que le droit est capable actuellement, hein, il a, où il en est, état des lois, état des lieux, comme je vais faire très rapidement quand même pour vous donner quelques chiffres, et puis, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? Est-ce que les solutions qu'il a tenté de mettre, enfin, je parle bien sûr du cadre français, mais je pense qu'il y a aussi, je pense qu'on peut l'étendre à beaucoup de pays, dont beaucoup d'états de droit, disons. Alors, donc je vais voir ça. Et dans une deuxième partie, ce que je vais voir, c'est, alors justement, un nouveau paradigme dont j'ai commencé à voir un peu l'utilité de saisir l'importance dans ce débat, c'est le concept de gouvernance, qui me paraît être celui bien décrié par tout le monde, par les politologues, par les juristes, etc., et qui me paraît être quand même, de plus en plus, être celui qui peut apporter une alternative à un monde régulé uniquement par un univers de normes, même si ces normes sont ouvertes, etc. Donc il y a une autre possibilité, un autre paradigme dans ces techniques de gouvernance, qui ne s'opposent pas au droit, mais qui, à la limite, vont être sûrement à un moment donné récupérés par le droit. Mais surtout, il faut considérer que cette gouvernance, ces modes, ces nouvelles technologies normatives élaborées dans le cadre de la gouvernance sont des solutions pour la complexité de la norme. Alors, première partie, les capacités du droit à gérer sa propre complexité, c'est-à-dire à se réguler. Hein. Alors, je vais vous raconter une anecdote parce que je la trouve très belle. C'était un colloque a eu lieu, parce qu'il y en a eu aussi beaucoup de colloques sur la l'inflation législative, et là, celui-là, il a eu lieu en 2004. Et c'était, s'il vous plaît, vive la loi. Bon, en fait, il y avait des psychanalystes, on fait appel à toutes les disciplines, et pour essayer de résoudre cette question. Alors, un historien a donné une idée très intéressante sur cette fameuse idée que la France ne peut pas se passer de l'idée symbolique, du rôle symbolique de la loi, qu'elle en vit, qu'elle en mourra, mais que c'est constitutif de sa culture. Et donc, je vais utiliser cette anecdote. Donc, ça se passe en 1790. 1790, au moment de la discussion, au moment de la Révolution. Les constituants imaginent un rite, ça n'a jamais été mis en œuvre, mais c'est intéressant quand même, l'imagination d'un rite, et qui consistait à promulguer la loi par l'érection d'une colonne triangulaire dans chaque chef-lieu de département. Elle s'appellera la colonne de la loi. Et donc cette colonne va prétendre s'inscrire au cœur des citoyens. Cette colonne, pendant 3 jours, va accueillir des spectacles. Alors, tous les corps constitués vont venir, le procureur du roi, on est déjà dans la République, la garde nationale, un tambour major, toute la population. Donc, sorte de grande cérémonie autour donc de cette colonne. Ce n'est pas les arbres de Rousseau, hein, ce n'est pas les arbres de la République. Et le placard de la loi, c'est-à-dire la loi elle-même, doit rester 3 jours protégée par tous. Puis, la loi est jetée dans un brasier. Il y a un grand feu sur la place autour et la loi est brûlée. Pourquoi est-ce qu'elle est brûlée? Eh bien, ce brasier ardent, dit le conventionnel qui propose cette idée, elle sera, on peut la brûler parce qu'après 3 jours, elle sera marquée dans le cœur des citoyens. Donc, on peut la faire disparaître. Et je trouve cette idée, bon, effectivement, qui est une mythologie qui a perduré, qui perdure encore, mais est-ce que vraiment, autant elle a de l'intérêt pour instituer une nouvelle convention, de nouvelles règles du jeu? Mais je ne crois absolument plus que la France soit soumise à une telle symbolique. Mais cette idée, quand même, est intéressante. Parce que souvent, et encore elle revient dans ce rapport, la loi a un rôle symbolique très fort pour les Français. Alors, je signale quand même que dans l'idée de nos élites institutionnelles, elle a quand même été relativement dégradée, cette idée de la loi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Dans le journal du dimanche, qui est un journal assez populaire, qui est lu le dimanche matin, et qui est d'ailleurs très intéressant, mais voilà, c'est pas Le Monde, c'est pas Libération, c'est pas Le Figaro, bref. Le vice-président du Conseil d'État, Benoît Saint-Marc, parle d'un droit gazeux et instable, et il dit que la complexité croissante de notre droit est devenue une source majeure de fragilité pour notre société, la société française et notre économie. Donc voilà la complexité qui devient une cause de la faillite de notre économie. Alors, donc, vous voyez que l'image de la loi est quand même relativement bien brinque-ballée. Et au même moment, quelques années après, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le même jour dans Libération, parle aussi, sont interviewés sur la surabondance, etc. Alors, quel est le sens de ce cri d'alarme? Pourquoi est-ce que même les institutions, ce n'est pas seulement les entreprises, ce n'est pas seulement les citoyens, mais aussi les institutions elles-mêmes se plaignent? Alors, donc, comment faire et pourquoi? Alors, très très brièvement, je vais essayer de donner quelques chiffres. En France, on dit qu'il y a à peu près 10 500 lois. Alors, ça varie, mais il semble que le dernier chiffre, ce soit celui-là. 120 000 décrets. Il y a 7400 conventions qui lient la France à d'autres pays, à des conventions internationales. Un autre chiffre, la réduction de l'impôt sur le revenu, notamment en cas de don aux œuvres, etc. Il a été modifié 22 fois en 30 ans. Hein. Autre chose, des éléments peut-être que vous n'avez pas suivis parce que vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Le nombre d'amendements, alors là, le nombre d'amendements a triplé entre, 90 et 2003, ça fait en 13 ans. Hein. On en est à 27 000 amendements à gérer à l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment ils arrivent d'ailleurs. Hein. Parce que les amendements, c'est quelque chose, on peut déposer en France des amendements jusqu'à 17 heures avant le vote de la loi. Hein. Et très souvent, il y a aussi, pendant ce qu'on appelle les amendements pendant le vote de la loi, amenés par le gouvernement, et souvent ces amendements n'ont pas le temps de les discuter. C'est bien que même si vous avez une administration extrêmement diligente, qui a tout prévu avec des modèles de simulation, de la logistique assistée par ordinateur, un très très beau, bel ensemble, cet ensemble peut être complètement éclaté au cours d'une journée d'amendement à l'Assemblée nationale. Donc ça ne sert effectivement pas à grand-chose. Alors je disais aussi quand même un chiffre pour la loi, l'ambiguïté de la loi en France. La France est... Faut être clair, il faut le dire, les citer d'ailleurs. C'est le pays d'Europe qui a le plus soumis au recours en manquement face aux directives. C'est-à-dire que les directives doivent être transposées dans le droit national. La France est le pays qui traîne le plus les pieds pour transposer ce droit européen dans le droit français. Alors, donc, je vais passer sur d'autres points. Oui, alors le point de l'urgence aussi est un point extraordinaire. La plupart, maintenant, quand on a peur des amendements, on dit « le texte est urgent ». Manque de chance, c'est en général une décision politique. On a vu que le dernier texte sur le droit d'auteur à transposition qui a fait couler tant d'encre en France, enfin en décembre, hein, était absolument mal préparée. Enfin, c'était véritablement un scandale, cette fois. Aucun spécialiste du numérique n'avait été réellement interpellé. Enfin, c'est pas sérieux. Donc il est passé ce qui s'est passé. Ça a été une flambée sur Internet, évidemment. Là, il y a du répondant par rapport à une loi. Et donc, elle était soi-disant urgente, devait être votée très très rapidement, et elle est toujours à l'instance. Elle va être discutée dans quelques temps, mais déjà avec une autre version. Donc l'urgence, ça n'a pas tellement d'intérêt. Le problème de l'application de la loi aussi. Ça aussi, c'est quand même quelque chose pour un pays qui, soi-disant, reconnaît la loi. Sur 100 000 textes législatifs adoptés depuis... non, pardon, sur 1000 textes législatifs adoptés depuis 80, c'est-à-dire depuis 30 ans, 222 n'avaient pas reçu d'application. Donc on est quand même au cinquième de textes qui n'ont pas connu d'application. Donc c'est quand même, pour moi, un vrai problème. Voilà, alors, une nouvelle idée aussi est venue en 2004, la notion de neutron législatif. Qu'est-ce que c'est qu'un neutron législatif? Eh bien, c'est une disposition qui n'a pas de portée normative. Et alors là, le Conseil constitutionnel s'en donne à cœur joie. Maintenant, c'est clair, il y a une politique du Conseil constitutionnel très claire. Dès qu'une disposition n'a pas de valeur normative dans la loi, elle est considérée comme anticonstitutionnelle. Bon, on continue quand même de faire des neutrons législatifs. Alors, il y a aussi des choses intéressantes, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, on fait des lois maintenant pour travailler sur l'histoire. Alors là, et notamment pour racheter l'histoire. Et réécrire l'histoire. Le génocide arménien, la France a reconnu en 2001 par une loi le génocide arménien, parce qu'il fallait vraiment une loi, peut-être pas nécessaire. Elle a reconnu aussi la traite et l'esclavage par une loi. En 2005, la contribution en faveur des rapatriés, d'ailleurs je crois que Jacques Chirac l'a abandonné, qui a fait aussi beaucoup d'effets. Et 19 historiens se sont réunis d'ailleurs pour demander son abrogation. Voilà. Alors ce sont des quelques éléments. Alors sur les solutions qui ont été prises par la loi. Alors en 96, on a dit c'est pas possible, après un rapport, le rapport PIC qui était en 94, bon rapport, c'est pas possible, il faut créer un office d'évaluation des lois. L'office d'évaluation des lois a fonctionné, il ne fonctionne plus. En fait, au lieu de fonctionner sur chaque loi, il a fait des rapports. Sur quelques lois, on mettait un spécialiste ou deux, de bons rapports, mais qui n'avaient aucun intérêt, parce que c'était un rapport sur une loi, mais la systématisation du processus n'a pas été faite. Ensuite, les études d'impact. Les études d'impact ont été aussi créées en 96. Chaque loi devait avoir sa petite fiche d'études d'impact. On avait même, je me souviens, quand on travaillait sur la codification, on avait même réussi à faire un petit logiciel qui, sous forme de camembert, faisait une projection de en quoi une nouvelle loi modifiait les différents textes législatifs. Parce que c'était aussi un impact législatif, pas un impact seulement le droit fiscal, etc. C'était aussi sur l'ensemble du droit. Combien une nouvelle loi modifiait de textes dans l'ensemble, etc. Bon, tout ça, il y a eu des tentatives, mais ça n'a rien donné. En 2003-2004, vous voyez, c'est tout ça, on suit un petit peu ce qu'on appelle le management, la gestion managériale des problèmes, et on est tombé dans la qualité de la législation. Il faut maintenant travailler la qualité de la législation. Alors maintenant, il y a effectivement un responsable, et par ministère, il y a des responsables de la qualité de la législation qui n'ont pratiquement pas de moyens, donc, à mon avis, aucun pouvoir non plus. Alors, j'ai appris qu'au Canada, vous aviez, paraît-il, plus de solutions. Vous aviez un programme qui s'appelait La Relève, je ne sais pas si vous connaissez, vous vous souvenez de ça. Et il y a, paraît-il, une équipe qui, avant de proposer, évalue réellement l'intérêt de cette loi. Est-ce que c'est vrai? Et donc, vous avez, paraît-il, trois fois moins de normes qu'en 84. Alors, est-ce que c'est... Vous confirmeriez ou pas? Et je sais qu'aussi en Allemagne, il y a eu aussi des lois qui ont été carrément abrogées en 2002. 142 lois qui ont été littéralement examinées, une par une, elles ont été abrogées. Voilà, alors donc, dans cette toute première sous-partie, je voulais seulement vous montrer que, à la fois, cette conception, les causes qu'on met à la complexité de la loi, au rôle de la loi, etc., puis les remèdes qu'on subodore comme pouvant améliorer la complexité du droit, en fait, n'ont pas donné grand-chose. Alors, moi, je vais faire quand même deux bémols, parce que je pense qu'il y a eu Il y a eu deux technologies, deux techniques de normativité, on va dire de normative, qui, à mon avis, ont été relativement positives dans tout ça. Je le sais parce que j'y ai participé, mais ce n'est pas non plus parce que j'y ai participé que je les défends. Je crois qu'on peut aussi en discuter, mais j'en verrai deux. Je verrai la codification et je verrai les lois expérimentales. Je pense que ce sont deux techniques, quand on les regarde de près, d'ailleurs, elles vont me permettre d'introduire la deuxième partie. Parce que déjà, ce sont des techniques qui ont pris en compte déjà la complexité de la société. Comme vous le savez, on ne peut pas simplifier la société. On pourrait peut-être le décider. On ne va pas simplifier le droit, on va simplifier la société. Ça ne marche pas non plus, ça ne marchera pas, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la codification, pour d'autres raisons, est quand même une première étape vers une sorte, sinon de maîtrise, parce que je ne pense pas que cette codification, elle a été critiquée beaucoup par mes collègues, il y a encore des colloques sur la codification. C'est bien, c'est mal, enfin non. Je pense que c'est une éthique quand même qui a permis de révéler cette complexité, qui a tenté de, disons, de s'y attaquer. Et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les critiques sur la grosseur des codes. Actuellement, nous avons 59 codes en France. Hein? Donc, ça fait à peu près les deux tiers. Et le programme de codification qui était élaboré en 89 envisageait que tout le droit français soit sous forme de code. Ça aussi, c'était un peu délirant. Mais tout le monde a dit, mais il nous faut un code de la non-codification, c'est-à-dire un code des résidus, de ce qu'on n'aura jamais réussi à mettre dans un code. Un code des résidus de ce qui est incodifiable. Le code de l'incodifiable. Voilà, ce serait un très beau projet. Bref, en tout cas, ce qui a été fait a permis de faire un point fondamental. Vous savez, on n'a pas comme vous avez tous les 10 ans, je crois, une révision du droit. Hein, je me souviens de ça. Hein. J'avais travaillé là-dessus il y a une vingtaine d'années. Et je pensais que j'avais d'ailleurs proposé cette idée. Cette idée-là me paraissait très intéressante, de révision tous les 10 ans. Et puis aussi, vous avez dans vos lois des petites notes en marge. Est-ce qu'elles existent toujours? Qui sont des sortes d'indexations. Et moi, j'avais proposé ça à Guy Brébant, qui est vice-président de la commission de codification. Je lui ai dit que ça, c'était... Mais écoutez, c'est en fait, comment dirais-je, d'une table des matières. J'ai dit, non, c'est pas une table des matières, c'est de l'indexation. Mais c'est l'indexation qui est faite par le codificateur. Donc, elle a une valeur de codification en tant que telle. Ah, mais on va pas mettre le langage, le codificateur ne veut pas s'occuper du langage. Il ne veut pas, par exemple, considérer que l'index serait quelque chose qui aurait une valeur juridique. Et même la table des matières n'a pas de valeur juridique en droit français, au droit de la codification. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin bref, c'est comme ça. Alors, la codification, pourquoi? Eh bien, parce que la codification, ce n'est pas de ramener le droit à des règles simples, mais c'est de traiter la complexité à la base. Jean-Louis Lemoigne, un autre chantre de la complexité, disait « Si un système est compliqué, on peut le simplifier, mais s'il est complexe, on dit le modéliser pour construire son intelligibilité. » Donc, complication, complexité, ce n'est pas la même chose. Si c'était seulement compliqué, on y arriverait peut-être, avec toutes ces méthodes qui ont été proposées. Mais la complexité, c'est autre chose. Alors, voilà quelques raisons. D'abord, vous savez que la codification se fait à droit constant, mais en fait, elle consiste à, par domaine, a quand même envisagé tout l'historique des lois et de leurs liens dans ce domaine. Et ça permet quand même d'avoir une vision relativement synthétique. Hein. Alors, le désordre apparent est dû à une insuffisance d'informations sur le critère d'ordre, mais la table de concordance, toutes les tables que l'on fait quand on fait un code, en fait restitue ce qu'on appelle l'historique du sens. Et c'est très important de comprendre l'historique du sens. Ensuite, qu'est-ce qui est positif? Eh bien, la numérotation d'articles de façon, j'allais dire, relativement uniforme. Et la distinction entre le contenu et le contenant. Le contenant, c'est le numéro de l'article, et le contenu, c'est la règle de droit. La codification dont on parle, elle ne s'occupe pas du contenu, elle s'occupe du contenant. Et, alors, ça a été critiqué. Mais en même temps, ça a été beaucoup plus rapide, plutôt que de dire, on va essayer de revoir tous les grands passifs du droit de l'environnement. Ça avait été fait au début. On avait invité une quinzaine de grands experts en droit de l'environnement, juristes, économistes, etc. Au bout d'un an, tout le monde se chamaillait, personne n'était d'accord, et le code était toujours au même point. Donc, ça a été clair. Maintenant, on ne touche plus haut. si on a des modifications, elles viendront de l'examen du rapprochement de ces contenants. Voilà. C'est un choix, mais il se tient. Alors, la compréhension exige aussi qu'on organise des niveaux de perception. Qu'est-ce que c'est qu'un code ? C'est un plan. Donc, c'est une perception supplémentaire d'une organisation. Alors que si vous mettez des lois isolées les unes à côté des autres, même avec une table des matières, c'est tout à fait différent. Et puis, il y a des liens entre les codes qui vont se faire et des liens à l'intérieur, des nouveaux liens qui vont se faire. Et là, l'établissement de ces nouveaux liens est en fait positif. Alors, qu'est-ce que ça va faire émerger aussi, la codification ? Ben, les dissymétries. Les dissymétries dans une structure, hein, mais aussi les adhérences et les rapprochements entre les parties d'un code. Il y a une partie législative, une partie réglementaire, on va dire, tiens, il y avait un article de loi et personne n'a pris l'article réglementaire, c'est-à-dire en fait l'article d'application. Une loi, tant qu'elle n'a pas, quand elle n'a pas son décret, elle n'a pas sa partie réglementaire, elle n'est pas applicable. Donc on arrive comme ça aussi à avoir une sorte de vision de ce qui manque. Hein. Et puis, qu'est-ce que la codification met en lumière aussi ce qu'on appelle les terminologies indécises, c'est-à-dire un certain nombre de termes qui, au fur et à mesure, ont dévié et finalement, à un moment donné, plus personne ne sait ce que c'est qu'un coefficient de population, par exemple, etc. Bon. Alors voilà, pour moi, ce travail de codification, je ne parle pas des résultats et la règle temps qui se contredit entre le droit le code de commerce et le code. Je parle seulement d'une sorte de vision plus facile à appréhender dans le résultat de la codification. Deuxième élément, les lois expérimentales. Alors là, je vais essayer d'être brève, parce qu'autrement... je ne sais pas si ici, vous avez ce qu'on appelle les lois expérimentales. Ce sont des lois qui sont prises pour un certain temps ou pour une certaine partie de la population. Hein. En général, c'est plutôt pour un certain temps, c'est-à-dire un temps limité. Et ces lois vont être examinées au bout de cette phase. Et cet examen va induire des modifications ou voire l'abandon même de la loi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la loi prévoit elle-même sa propre modification. C'est plus un autre niveau, c'est la loi elle-même qui dit, voilà, je lance ce système de normes dans la société, qui va être mon laboratoire social, mon laboratoire expérimental, et je vois ce qui va en tomber. Alors, je vous cite par exemple une loi, c'est la loi sur le RMI, le revenu minimum d'insertion, 88. Tout le monde s'était battu pour savoir combien de gens ont besoin, sont les ayants droit de ce revenu, etc. Personne, les économistes, les enquêtes de sociologie, personne n'était à peu près d'accord, sauf qu'on s'est mis d'accord à un moment donné sur 500 000 personnes en France. Et ce texte a été lancé, et le premier résultat qui a été quand même trouvé est intéressant, c'est que le nombre des ayants droit n'était pas du tout celui-là, il est exactement le double. Il y avait 1 million d'ayants droit à ce revenu en France. Donc, c'est pour vous dire que même toutes les études de sociologie législative que prenait beaucoup Carbonnier, il a eu raison de lancer cette idée de sociologie législative. Mais même ça, ce n'est pas suffisant. Parce qu'à un moment donné, il y a des complexités du réel, enfin des statuts, voire même que des gens ne s'inscrivent pas à ce à quoi ils ont droit. Hein, c'est très connu dans le domaine social. Et le premier résultat, ça a été de connaître au moins ce phénomène. La loi lancée dans la société permet de retirer de l'information pour le législateur. Bon, il y a eu d'autres éléments qui ont été, on s'est aperçu que les dispositifs d'insertion n'étaient pas tout à fait bien conçus, etc. Mais donc, elle a été revue 5 ans après et elle est revue périodiquement. Alors l'IVG, c'est pareil, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, c'est une loi qui a été votée en 1975. Comme vous savez, l'année dernière, ça a été en France, c'était donc une sorte d'anniversaire. Elle a été quelquefois critiquée, hein, et notamment l'application elle-même dans le système de remboursement. Elle n'a pas toujours été très bien faite, mais il y a eu toujours un observatoire, une étude d'évaluation, etc. Et finalement, donc, elle est reconduite avec certaines modifications sur les délais, etc. Et puis, il y a beaucoup de domaines où il y a cette sorte de loi. Moi, je pense que c'est une façon de gérer la complexité du monde et la façon dont un système de normes peut prévoir cette complexité, cette imprévisibilité des effets de la norme pour lui-même se remettre en cause. Et donc, je pense que c'est une bonne solution, au moins partielle dans certains domaines. Alors, il y a autre chose aussi que j'avais étudiée, mais c'est une autre expérience qui a été lancée aux Pays-Bas, sur l'euthanasie. Alors c'est intéressant aussi, cette expérience, parce qu'en fait, là, on n'a pas touché la loi. On n'a pas touché la loi. Elle est toujours. L'euthanasie, contrairement à ce que certains de gens disent, notamment le Vatican, qui ne veut pas comprendre le vrai sens de cette loi, l'euthanasie est toujours pénalisée dans le droit hollandais. Donc déjà, c'est un meurtre. Okay. Mais, à côté, il y a un autre système qui a été développé, et avec la collaboration et la négociation, et toute la société elle-même s'est mise, enfin de gens bien sûr, qui étaient pour un changement de cette loi. Et le mécanisme a été très simple. Hein. C'est un mécanisme émergent et incrémental. On a les médecins, les psychologues, les infirmières, tout le corps médical, plus les patients qui demandaient effectivement de réduire le temps de la vie pour des raisons X, Y, Z, se sont mis d'accord sur un certain nombre de protocoles, des procédures. Ces procédures étaient à un moment donné négociées, puis acceptées. Au fur et à mesure, il y a eu plusieurs procédures qui ont été acceptées et elles ont été proposées devant le Parlement. Mais déjà, la société s'est à peu près mise d'accord sur ces procédures et les limites, bien sûr, de l'euthanasie. Et cette loi a été votée. Mais pareil, elle va être rediscutée. Il y a des nouveaux cas qui sont présentés. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique entre le législateur et la société. La société gérant elle-même ses propres discussions au sein des milieux professionnels, etc., et le législateur gardant son rôle, effectivement, à un moment donné, d'acter, en fait, une évolution de la société et de porter le débat, à ce moment-là, dans les institutions. Mais tout le débat a lieu avant. Voilà. Et ça peut prendre du temps. Tant pis, c'est le temps qu'il faut pour comprendre les phénomènes, notamment très sensibles, comme cela. Alors, voilà deux méthodes qui sont, à mon avis, bonne pour appréhender la complexité dans le droit. Alors maintenant, je vais passer à une deuxième partie, j'essayais de ne pas être trop longue, où là, radicalement, c'est une autre position. On ne pense plus que le droit est capable de gérer lui-même sa propre évolution, sa propre dynamique. On considère que la société doit se mettre elle-même dans les starting blocks, elle doit elle-même favoriser des phénomène d'émergence, de besoin de normes, et qu'elle doit se mettre d'accord pour trouver des consensus partiels, mais qui en moins représentent des formes de délibération consensuelles. Hein. Et donc, ces techniques de gouvernance, donc, qui sont exogènes par rapport aux premières, hein, permettent-elles de suppléer les missions du droit, hein. Le droit, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Le droit, c'est une façon d'être d'accord sur la norme commune, hein, et une façon d'être d'accord, puisque nous sommes dans un système démocratique et majoritaire, où le plus de gens, le plus de citoyens soient d'accord sur les normes auxquelles ils vont se soumettre. Bon. Est-ce qu'il existe d'autres solutions qui ne seraient pas gérées par le droit, hein, qui ne seraient pas gérées par les institutions, mais par la société elle-même? Eh bien, il en existe de plus en plus. Et je veux dire que les technologies, cette société en raison dont parlait Manuel Castells, eh bien justement, est en train de modifier sensiblement nos modes d'organisation pour trouver des nouvelles formes de délibération. Dans des sociétés complexes où justement il y a une pluralité d'acteurs qui doit s'accorder sur la norme commune, l'équilibre entre droit et gouvernance est en train d'évoluer. Hein. La loi représentait sous le roi d'ailleurs, pas seulement avec la République, la loi existait bien avant, hein, représentait l'unité d'un pouvoir, hein, le pouvoir souverain. Hein, c'est, Jean Bodin disait, la loi, c'est mon pouvoir, c'est la puissance de faire loi. Bon, c'était effectivement là un rôle symbolique. Mais le législateur démocratique a créé des assemblées, lui, pour fonder la loi sur la volonté commune. Vous savez, tous les mécanismes qui ont été discutés dans la période pré-révolutionnaire, pour trouver la meilleure solution pour que tout le monde soit d'accord et tous les concepts sur lesquels sont fondés toute la science politique et le droit constitutionnel. Eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit actuellement. On parle de ce dont j'ai parlé dans la première partie, c'est quand même les limites de ce qu'on appelle la délibération législative, hein, avec les institutions actuelles, les limites de qualité, bien sûr, les limites de consensus surtout. Hein. À la limite, si tout le monde est d'accord avec une loi, même si elle est mal écrite, tant mieux, tant pis. Mais personne, tout le monde récrimine sur le résultat aussi. Alors, donc, il faut trouver d'autres solutions. Et les solutions, elles n'ont pas été, c'est pas une injonction paradoxale, du genre, trouvez-nous des solutions, c'est que la société elle-même, perdant confiance aussi vis-à-vis de ces mécanismes délibératifs officiels, eh bien, est en train de trouver ses propres solutions. Hein. Alors le problème, c'est maintenant, est-ce qu'on va assister à une société qui décide finalement de s'organiser, de s'auto-organiser, et puis une société de droit qui va jouer parallèlement. Je crois que ce n'est pas la solution. Ce qu'il faut, c'est au niveau de la dynamique, que les choses se fassent, et à un moment donné, c'est vrai, nous sommes dans des états de droit, c'est clair que les décisions pour être applicables à l'ensemble de la société doivent passer par les institutions, mais déjà, si le processus de délibération, le processus de connaissance émane de la société et n'est pas entièrement reporté sur les institutions qui, comme vous le savez, se réduisent aussi en peau de chagrin quant au comité, etc., dont elles disposent, eh bien, ça serait déjà un progrès. Alors, une série de principes et d'indicateurs ont été déjà développés par le Conseil de l'Europe en 2004, quand il parlait de notamment que les technologies de l'information devaient aider. Hein. Non seulement elles nous avaient changé en résonance sous forme de réseau, elles avaient changé nos concepts, elles étaient en train de changer nos façons d'établir nos rapports dans la société, mais les rapports aussi avec l'État. Hein. Et la façon dont l'État doit maintenant imaginer les nouveaux rapports que la société a avec lui. Hein. Parce que tout le monde a besoin les uns des autres en ce moment, on est liés, donc c'est une urgence aussi. Eh bien, le Conseil de l'Europe a montré qu'il ne s'agissait plus seulement d'envisager la société de l'information comme étant l'objet d'un pacte des technologies, hein, donc passivement essayant d'intégrer ces technologies. Non, ce que dit le Conseil de l'Europe, et ça me paraît très important, c'était un rapport en 2004, une recommandation, il faut avoir une vision holistique, c'est-à-dire intégratrice de la société de l'information. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, il y a des domaines d'action, d'activité, de comportement qui ne peuvent plus être envisagés sans l'évolution de cette société de l'information. Hein, c'est plus seulement l'ordinateur périphérique par rapport à une pensée qui n'aurait pas changé, c'est que l'ordinateur lui-même propose une autre façon d'aborder les problèmes, hein, l'ordinateur au sens large. Hein. Donc voilà un peu toute cette idée. Et je pense que la gouvernance s'inscrit très bien sur Internet. Il y a des phénomènes de gouvernance qui existent, vous connaissez les sociétés, notamment du livre, les sociétés, la Debian Society, qui commencent à s'auto-organiser. Mais ce n'est pas seulement une gouvernance du monde d'Internet, c'est la gouvernance par Internet de la société. Hein. Donc on va à un niveau un peu supérieur. Alors, donc, droit et gouvernance, j'intitule ça le droit donc, et gouvernance, une réflexion sur les changements des techniques normatives. Comment réconcilier le droit et la gouvernance, hein? Alors, brièvement, cette notion de gouvernance, j'ai pris la définition de l'ONU parce qu'elle m'arrangeait, hein, c'est clair, je la trouve bonne. Donc, la gouvernance est la somme de multiples voies par lesquelles les individus et les institutions gèrent leur affaire commune. Tiens, tout d'un coup, on n'oppose pas les institutions à la société, comme on l'entend souvent. Les individus et les institutions gèrent leur affaire commune. Elle est un processus continu. On n'est plus dans les ruptures, on est dans la continuité, dans l'évolution, à travers lesquelles les conflits, les intérêts peuvent être conciliés et les actions de coopération décidées. Cela inclut autant des institutions formelles et des règles, bien pour le droit, destiné à mettre en œuvre des engagements, que des arrangements informels sur lesquels des personnes et des institutions peuvent être d'accord ou qu'elles considèrent de leur intérêt. Donc là, il n'y a pas d'opposition constitutive entre ce qui serait une gouvernance émanant de la société qui s'auto-organise et les institutions. Hein. Voilà, donc c'est vrai que toutes ces définitions de la gouvernance, vous savez qu'elles viennent de l'économie, de la gestion, etc., qu'elles sont très mal vues par les juristes, elles étaient très mal vues par les juristes. Donc il y a un spectre assez large, il y a aussi les fanatiques de la gouvernance, et effectivement, ces définitions vont de l'utopie à l'autorégulation. Hein. Mais ce que je crois quand même, et fondamentalement, ayant travaillé un peu là-dessus il y a quelques années, La gouvernance par rapport à la régulation, hein, parce qu'on a beaucoup parlé des deux. Je crois que la régulation est un processus qui n'implique pas autant de, comment dirais-je, un gap, un écart entre la société et l'État. L'État peut se réguler, il régule, il a déjà fait. Mais la gouvernance, pour moi, porte une radicalité d'un autre ordre. Elle est plus radicale par rapport au rôle traditionnel de l'État, hein, dans le monde de la normativité. La gouvernance ne s'impose pas par l'État, hein. Elle est, pour moi, un système émergent, incrémental, dynamique, qui émane d'une société qui, à un moment donné, a envie de faire valoir des intérêts communs, hein, d'une société, d'un groupe, etc. Et alors, donc, Creative Commons, dont je m'occupe dans le chapitre français, hein, je ne suis pas la seule, il y a Mélanie Dulandronnet qui en est la responsable juridique et qui fait très très bien ce travail. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans Creative Commons, c'est justement, plus particulièrement, tout ce phénomène de gouvernance. Comment ça s'est créé, d'où ça vient, comment s'en emparent les internautes, pourquoi est-ce que ça marche, hein, 50, plus de 50 millions actuellement de liens sur des œuvres de Creative Commons. Et ça continue. Il y a à peu près une trentaine de pays actuellement qui ont adopté quand même la transposition, parce qu'on peut appeler ça une transposition, de la licence générique dans le droit national. Ce qui est quand même intéressant, il y a 15 jours, il y avait le dernier pays qui vient d'être créé, dernier chapitre, c'est le chapitre chinois, qui n'est pas rien non plus. À Pékin, il y a une grande fête sur Creative Commons dans le monde chinois, donc, ce qui veut dire que ça transcende de beaucoup... disons, les particularismes culturels. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi Creative Commons me paraît être un système qui est un bon exemple de ce qu'on pourrait concevoir comme une forme de gouvernance, sinon alternative, ou provisoirement alternative, à des systèmes institutionnels beaucoup plus juridiques? Eh bien, ce que j'appelle l'autorégulation coordonnée, c'est de créer du consensus sur la norme. La complexité, c'est encore un autre problème. Ce qui manque avant tout, c'est le consensus. Et une norme sur laquelle les gens ne sont pas d'accord, ils ne l'appliqueront pas. Et personne, à tous les échelons de l'application, soit parce que c'est décalé par rapport à leurs propres besoins, soit qu'elles ne correspondent pas à... ou que des éléments dont ils étaient porteurs de connaissances, parce que maintenant, une société, tout le monde doit porter sa contribution, je pense. C'est une société trop complexe pour qu'une poignée de gens puissent avoir l'imagination d'une loi. Donc, en fait, en développant ces techniques de forum et de débat et d'incrémentalisation des processus, vous avez une chance supplémentaire de faire remonter les cas les plus extraordinaires, les plus impossibles à gérer, qui n'auraient pas été envisagés dans une loi générale. Vous comprenez? Donc ça, c'est une remontée d'informations. C'est une connaissance qui, à mon avis, absolument, qui a une valeur extraordinaire. Voilà. Alors ça, c'est un premier point. Alors Creative Commons, je considère donc que c'est une forme d'autorégulation coordonnée qui permet de créer du consensus sur la norme. Et dès le départ... Et c'est une initiative caractéristique de la société civile, des internautes. Attention, ce n'est pas la société civile en général, mais c'est la société civile des internautes, et ce n'est pas rien. C'est aussi des internautes qui utilisent de façon holistique, hein, comme le disait le Conseil de l'Europe, Internet comme une façon aussi de créer. Hein, de créer. Creative Commons, c'est au départ l'idée qu'on peut récupérer des fichiers sans être un pirate, et pas pour obligatoirement le vendre. On les récupère des fichiers pour créer sur ces fichiers, pour être, parce qu'on est DJ, parce que, etc., on a besoin de... On fait des œuvres composites de plus en plus, etc., etc. Et l'individualisme de l'auteur est de plus en plus aussi à remis en cause, donc, dans les œuvres communes. Donc, disons qu'il y a une convergence d'intérêts par rapport à l'époque. Alors, quels sont les éléments que je voudrais voir pour vous montrer très simplement, hein, pourquoi je considère que c'est un bon exemple et qu'il faudra sans doute, je pense, l'étudier en tant que tel. C'est d'abord choix libre et explicite des licences par l'auteur. C'est le premier élément. en matière de Creative Commons, l'auteur exprime la volonté de disposer de son œuvre a priori sans intermédiaire. Ça, c'est le résultat. Je vais partir du résultat pour vous montrer après comment ça s'est fait. Symbolique, ce geste représente une forme d'adhésion à une communauté. Hein. Personne n'a voté là. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont proposé leur œuvre dans un fichier et il y a des gens qui veulent aller voir ce fichier pour prendre une œuvre qui serait communément partagée pour créer une autre œuvre, hein, pour l'utiliser. Voilà. Donc là, il y a une adhésion de fait, hein, à un système. Et alors, ce qui est très intéressant, parce que tout ça, il y a des questions juridiques derrière, mais je ne vais pas vous en parler, mais cet acte engage l'auteur vis-à-vis de toute personne qui utiliserait l'œuvre proposée. Le problème de la rétractation a été sur Internet, il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce qu'on peut se rétracter sur une œuvre qu'on a mise sur Creative Commons? Mais théoriquement, non. Voilà. C'est un engagement. Un engagement, c'est comme ça. Alors, bien sûr, je pense que tout ça sera revu si on s'aperçoit à un moment donné que ce n'est pas possible. Il faudra revoir l'affaire. Mais théoriquement, c'est un engagement. Alors, cette volonté explicite, hein, cette volonté explicite à la fois de donner et de prendre aux mêmes conditions, ou bien sûr aux mêmes conditions que la première offre de contrat de celui qui propose son œuvre. Donc, cette volonté est explicite de deux façons. L'œuvre est marquée du logo Creative Commons, et l'auteur pourra choisir ce logo parmi 6 licences possibles. Il peut choisir la plus restrictive ou la plus accommodante, si ce n'est pas un problème, hein, il a le choix. Il peut choisir, contrairement à ce qu'on croit, que personne n'utilise commercialement son œuvre. Il peut le faire. Je vous signale qu'en France, c'est effectivement la licence qui a été le plus choisie. Hein. Il peut au contraire, la plus accommodante, c'est « je veux seulement que vous me citiez hein. ». On ne va pas dire que c'est du narcissisme, enfin c'est seulement le droit moral de l'auteur qui est absolument là, d'ordre public, si je puis dire. Donc, je vous signale que là aussi, c'est la France qui a demandé à ce que la paternité fasse partie du contrat, parce qu'au départ, les licences génériques américaines ne considèrent pas le droit moral. Donc là aussi, il y a eu un processus d'échange, hein, de même que nous, on a supprimé le domaine public, parce que le domaine public n'existe pas, on ne peut pas décider de son œuvre dans le domaine public en France. Donc vous voyez, il y a eu des aménagements à partir de la licence générique américaine. Tous les pays, hein, et ça j'en reviendrai tout à l'heure, ont défini leurs limites par rapport à leur système droit d'auteur national. Alors, la régulation est assistée par des outils techniques. Hein. C'est très facile de servir fr.creativecommons.org, vous pouvez voir. Donc le générateur, il y a un générateur qui permet de contracter en ligne, hein, si vous voulez l'utiliser. Hein. En plus, la licence est lisible par la machine, hein, elle est en HTML, mais elle est aussi ce qu'on appelle, c'est un contrat complètement lisible par un non-juriste. Et puis un contrat, parce qu'il faut quand même des pages pour montrer qu'on est sérieux, il y a 4 pages d'une licence parfaitement juridique qui a été examinée par des juristes spécialistes du droit d'auteur, etc., qui d'ailleurs n'est pas contestée, quels que soient les pays, et qui n'a donné lieu à aucun contentieux. Donc là-dessus, il y a 3 licences, une licence en HTML, technique, une licence qui est visible, hein, et une licence commune, une licence lisible par tout un chacun, et la licence juridique en termes juridiques. Donc, là-dessus, grande explicitation. Alors, deuxième point très important, ça c'est quand vous voulez vous en servir, mais nous, on s'est trouvé un petit peu en amont, puisque on s'est occupé de la transposition, hein, et puis de la façon dont on a lancé ce projet en France, parce qu'il ne s'agit pas de mettre ça sur Internet, il faut aussi un minimum d'interaction pour que les gens soient au courant. Hein. Eh bien, moi je dirais qu'il y a une communauté d'esprit et de procédures collaboratives tout à fait intéressantes, puisque l'idée, ce n'est pas de dire, voilà, c'est Stanford, c'est Laurence Lessig, il est très bon, il y a un bon, hein, donc on va prendre la licence américaine. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas non plus GPL. Hein. C'est une licence qui est, si vous voulez, renationalisée, puisqu'elle doit tenir compte à la fois de la langue et du système juridique national. Voilà, c'est pour ça que ça demande en général un an de transposition. Hein. Et la transposition à laquelle nous avons participé, on a fait des études, des réunions avec des experts, après on a fait, sur Internet, on a proposer des licences en français. Il y a eu 250 questions sur un forum. Tout ça, ça a été intégré. Au bout d'un an, on a proposé effectivement à Stanford, au groupe, la licence générique, si, effectivement, ça correspondait quand même bien à la licence, puisque là aussi, il faut négocier dans les deux sens. Hein. Ça a été accepté, et voilà, on a lancé à l'Assemblée nationale en 2004, le 19 novembre, donc une grande après-midi, avec le soir une fête avec des gens qui étaient que sous Creative Commons, des créateurs, des musiciens, des vidéastes, etc., pour montrer qu'aussi on est dans du public, on est dans du pratique aussi. Hein, voilà. Alors, donc, Creative Commons, ça a été, voilà comment ça s'est fait, de façon, là aussi, incrémentale au niveau de la préparation, discussion publique, discussion ouverte, et c'est pour ça que, pour revenir maintenant brièvement à ce que je disais sur la complexité, pourquoi j'ai pris cet exemple pour à la fois parler de la gouvernance et de la complexité. Eh bien, j'estime que cette technique-là, c'est une méthode de coordination, hein, pratique. Elle n'est pas une alternative complète au droit d'auteur, puisque le droit d'auteur, on s'inscrit seulement dans ce qui est permis. Hein. On ne dit pas, on ne conteste pas le droit d'auteur, il n'y a pas de contestation possible. C'est expliquons aux auteurs qu'ils peuvent retenir dès le départ leur œuvre. Et voilà ce qu'ils peuvent faire, retenir les droits sur leur œuvre. Hein. Alors, ce n'est pas une alternative, c'est une forme complémentaire de régulation par l'État, ça j'insiste beaucoup, et complètement en phase avec le droit d'auteur. L'intérêt public est restitué seulement hein, par la société civile, qui se trouve alors au cœur de la liberté de création. Et cette méthode est un moyen de faire se rencontrer l'offre du créateur avec le besoin de nouveaux créateurs et des utilisateurs. Hein. Alors, c'est une approche ouverte, hein, parce que l'objectif est d'organiser un mode d'apprentissage qui puisse organiser l'échange des œuvres, de l'information et des expériences. On a donc une nouvelle approche de la loi, mais aussi des conventions, hein, des contrats. Hein. Et c'est ce qu'on a appelé une sorte d'autorégulation soft, mais productrice d'une dynamique d'un point de vue national et international. Parce qu'on rapproche aussi les droits, d'une certaine façon, hein, puisqu'on est tous en train de s'articuler les uns aux autres, hein, puisqu'en plus il y a des réunions assez régulières, la prochaine a lieu d'ailleurs au Brésil au mois de juin, et comme vous le savez, bon, c'est le pays qui a été très très actif dans ses licences, parce que la musique a un sens culturel collectif et pas uniquement appropriatif, et qu'en plus il y a un ministre qui est très très supporteur, c'est Gilberto Gil. Hein. Donc qui, lui, soutient Creative Commons Mandicus. Voilà. Alors, j'irai de Gilberto Gil à Jean Carbonnier, je pense qu'il serait tout à fait d'accord, pour dire que, je cite Jean Carbonnier, fondateur de la sociologie législative, la société peut toujours trouver la régulation qu'elle demande dans un autre système normatif, fût-il plus faible, tel que le système demeure. Voilà ce que disait Jean Carbonnier. Hein, dans flexible droit. Donc, voilà une, à mon avis, un bon parallèle. Hein. Donc, les instruments de coordination définissent pour moi un nouvel équilibre entre la loi et le contrat, et choisis par les parties, les différents types de licences, c'est une vraie manifestation de la volonté de chacun. Et alors, dernier point, hein, c'est un observatoire extraordinaire, je ne veux pas dire en feedback, parce que je suis au Québec, mais rétroactif des pratiques normatives. Le législateur, il ne sait pas exactement ce qui se passe. Est-ce que, puisqu'on n'évalue pas les lois, on ne sait pas trop les évaluer, etc. Là, vous avez un mode pratiquement en ligne d'évaluation. D'ailleurs, depuis, il y a plusieurs systèmes de statistiques qui sont mis en place. Vous savez que par Google, on peut interroger maintenant, il y a une option, voulez-vous être sous Creative Commons, de même sur Yahoo. Hein. Donc, on peut répertorier le nombre de licences par pays, par type d'œuvre, etc., et par type de licence, pour avoir une sorte de tableau de bord de l'évolution du système global. Hein. Donc c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai vu qu'entre les États-Unis, la France et le Canada, le Canada était entre la France et les États-Unis. Parce que, effectivement, la première licence la plus restrictive est adoptée par la France. La deuxième licence plutôt de le type logiciel libre GNU GPL, est plutôt adopté par le Canada, c'est une tradition. Et puis l'option paternité, c'est-à-dire la moins restrictive, est majoritaire aux États-Unis. Voilà. Donc c'est intéressant, mais on a maintenant 30 pays. C'est intéressant de savoir comment la Chine agit, etc. Par rapport à ça, on a le Japon, il y a en Afrique, ce serait très intéressant. Il y a l'Afrique du Sud qui développe actuellement aussi des licences Creative Commons, etc. Voilà, alors donc un dernier point, et je conclurai là-dessus. Je considère donc que c'est un outil incrémental entre régulation et gouvernance. Et je voudrais citer la phrase de Merges, qui a, dans l'Université of Chicago Law Review, en 2004, fait une étude justement sur les mécanismes de gouvernance dans le problème des droits formels de propriété. Et voilà ce qu'il dit. Les mécanismes de la gouvernance pourraient émerger en l'absence de droits formels de propriété, spécialement quand les droits de propriété sont ineffectifs. En ce sens, le projet Creative Commons ne serait pas de l'ordre sans droit, mais de l'ordre en dépit du droit, autorisant par là même une réingénierie des structures de permission dans l'intérêt des gens qui font faire les choses, qui font les choses. Voilà. Donc, un dernier élément aussi que j'ai oublié de dire dès le départ, c'est qu'une loi non appliquée, une loi contournée, ce n'est pas non plus un bon sujet. Hein. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'il insiste sur le fait que, bien sûr, le piratage sur Internet, c'est un point, mais permettre une négociation, une ouverture, un partage pour ceux qui le veulent, et que ça soit explicite, me paraît un vrai progrès par rapport à cette pénalisation du droit d'Internet, parce qu'on va vers une pénalisation du droit d'Internet. Donc, c'est une façon de rendre les gens plus responsables, et à mon avis, c'est plus efficace. Voilà, alors je conclurai par là, et je dirais aussi, je citerai juste Lessig qui dit « Quand il y a un déplacement massif de l'opportunité, il faudrait réévaluer le niveau de nécessité de ces systèmes de réglementation. Nous sommes aveuglés par l'idée qu'un contrôle absolu est l'idéal. Du coup, nous sommes incapables de voir les potentialités d'innovation. » Je pense que là aussi, Creative Commons, c'est une innovation dans l'univers du droit, et à ce titre-là, je crois que tous les juristes devraient au moins s'intéresser à ce type de phénomène. Il n'y a pas que Creative Commons, il y en a d'autres, hein, mais je crois que ce sont des laboratoires très intéressants pour tester des nouvelles solutions juridiques. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci. Il reste quelques minutes pour questions. Karim Benyekleff, parlez assez fort pour qu'on puisse vous entendre et que vous fassiez l'histoire.
Alors, merci beaucoup Daniel pour cet exposé très intéressant et qui finalement rejoint en bonne partie certaines réflexions qu'on a pu mener sur la plurinormativité, on a déjà eu l'occasion de discuter, le pluralisme juridique. Sur Internet notamment, mais au-delà, puisque la gouvernance induit également des mécanismes de discussion, de négociation sur des sujets qui ne relèvent pas forcément des technologies d'information. En fait, les technologies d'information constituent un laboratoire intéressant. Et alors, je suis d'autant plus heureux que d'avoir le succès de Creative Commons en France, qu'on a beaucoup glosé à un moment donné sur ce pluralisme juridique, et je me rappelle très bien quand j'y allais en France, notamment avec mes collègues qui sont ici présents pour me confirmer, et qu'on évoquait notamment ces formes de pluralisme juridique, ou périjuridique, peu importe, le légicentrisme français se faisait sentir. On se heurtait, comme je disais dans le livre qu'on exposait, à cette. Ce fétichisme de la loi, peut-être. Alors, ce qu'on nous opposait, justement, parce que finalement, c'était aussi des modèles de gouvernance que nous proposions, ce qu'on nous opposait, au-delà du légicentrisme, c'était de dire, oui, mais il faut pas oublier que le législateur, malgré tous les défauts, il représente la volonté générale, c'est la représentation nationale, par conséquent, la loi, même si elle est perfectible, elle est quand même entourée, n'est-ce pas, de cet halo démocratique qui fait en sorte qu'elle a cette légitimité que d'autres ne veulent pas avoir. Et alors, c'est la question que je me permets de poser. Comment... alors, je crois que c'est un faux problème, mais c'est n'empêche que c'est une question qui est récurrente. Et on la pose même aussi très souvent, même à la gouvernance, qui pourtant elle-même est en principe beaucoup plus démocratique, mais parce qu'elle n'emprunte pas forcément les canaux classiques, ce que j'appellerais moi le paradigme démocratique élémentaire, c'est-à-dire l'élection 50 plus 1, le Parlement, la loi, etc., fait en sorte qu'elle est, que ces phénomènes sont un peu dénaturés ou mis de côté. Alors à ce moment-là, est-ce que Creative Commons d'autres formules de ce type, cette gouvernance, qu'elle doit faire référence, est-ce qu'on pourrait croire qu'il y a là finalement une première fissure dans ce paradigme démocratique élémentaire et qu'on pourra appréhender à ce moment-là la démocratie peut-être sous d'autres voies que celle simplement encore une fois de la présentation de ce paradigme?
Oui, moi je pense que c'est clair qu'il y a un essoufflement, il y a une perte de crédibilité, il y a une inefficacité, autant de concepts qui sont forts en ce moment, hein. L'efficacité de la loi, on n'en a pas parlé, mais une loi inefficace, une loi inutile, je pense que ça la discrédite hein, aussi, hein. C'est pas... ce qu'il faut, c'est traiter cette complexité, il faut la traiter, il faut arrêter de... la déploration, par exemple, enfin, moi je considère que cette déploration m'interpelle beaucoup, quoi, je veux dire... Pourquoi on déplore ? Quelle est cette impuissance ? Enfin, pourquoi raisonner en termes d'impuissance ? Soit on dit, bon, c'est normal, on est dans une société complexe, on a un régime qui date de 2 siècles, enfin un régime de délibération qui est fondée sur une société totalement différente quand même, dans la Révolution, je veux dire, c'est ça. Imaginez quand même que le tiers-État a failli disparaître dans la discussion, hein, je veux dire, bon... on n'est plus du tout dans les mêmes sociétés. Alors tu parlais du pluralisme, bien sûr, des sociétés beaucoup moins homogènes au sens d'une culture qui serait monique, enfin une sorte... On est dans des sociétés où déjà il y a plusieurs cultures. Donc je pense que ce légicentrisme à plein de niveaux reflète un état du monde, un état de la société qui correspond de toute façon... Vous savez, il ne s'agit pas de dire je suis antidémocratique, j'ai entendu des réflexions incroyables de la société civile qui a une très mauvaise presse, évidemment. On dit que la société civile, c'est le pragmatisme, c'est Locke, c'est Hobbes, c'est tout ce que le continent européen, ce dont il se méfie. Hein. Les corps intermédiaires, Montesquieu aussi en a parlé. Enfin, je veux dire, on vient de toute une histoire où on est complètement formaté sur l'idée que c'est l'individualisme face à l'État, parce que c'est ça qui, par le biais de la représentation de la volonté générale, permet une meilleure représentation. Mais c'est plus comme ça que ça se passe. Il faudrait prendre tous ces termes un par un et voir comment ils ont évolué par rapport aux discussions qui les ont fait naître. Parce qu'un concept qui... Ces mêmes concepts ne couvriraient plus du tout les mêmes réalités. Je veux dire, je ne parle même pas du multiculturalisme, ou communautarisme, ou des choses comme ça, qui sont des sujets brûlants. Hein. Mais même à l'aune de ce qu'on disait il y a 2 siècles comme technologie législative, et voir que ça ne correspond plus aux mêmes réalités que ces technologies étaient censées recouvrir, ce serait déjà fabuleux de le faire. Hein, on a les corps intermédiaires, heureusement, on n'en a plus peur, heureusement. En France, ça a été un énorme déficit aussi, l'absence de corps intermédiaires. C'est vrai que, je crois qu'on le paye, il y a une désyndicalisation en France qui est très forte. Parmi les étudiants, il y en a, je crois qu'il y a 6% de syndicalisme, en fait, c'est rien du tout. Or, ce pays, je me demande si ce n'est pas des effets aussi de se méfier toujours, et alors avec des représentativités qui sont de plus en plus faibles. Alors, c'est ça le paradoxe, c'est que on a toujours, après 45, il y a eu ces fameux syndicats, fédérations les plus représentatives dans tous les corps économiques, enfin dans les... Et certains syndicats ne représentent plus rien. Et d'autres syndicats sont nés qui ne sont pas représentés. Donc il y a tous ces phénomènes-là, on voit très très bien que tout ça devrait être complètement ouvert et rediscuté. Et voilà un débat qui serait intéressant, qui mériterait peut-être d'aller utilement dans la rue, je veux dire, ou dans le Stade de France pour après un match de foot, je ne sais pas, mais... Non, mais Donc, je pense que ces concepts-là, il faut les revoir parce qu'ils ne recouvrent plus les mêmes réalités. Et on est tous, il y a un tabou hein, de parler de ça. Moi, j'étais à un colloque là, il n'y a pas très longtemps en Allemagne, on parle de maintenant de post-démocratie, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce concept, qui reprend certaines idées justement de l'échec de la délibération traditionnelle et qui essaie de trouver d'autres solutions. Moi, je ne sais pas s'il faut éliminer la démocratie, il faut seulement la faire revivre, parce que je crois qu'on peut, la gouvernance fait partie de la démocratie. Je ne sais pas incompatible, je ne vois pas pourquoi. Non, mais il y a un grand chantier là, il y a un chantier extrêmement intéressant que les juristes doivent suivre, parce que je ne pense pas que ça appartient aux juristes aussi de négocier. Ça appartient pas aux politologues ou même aux politiques tout court, c'est pas un débat. C'est très intéressant. Moi, je dis, se mettre d'accord sur la norme commune. Il faut que, déjà, tout le monde puisse penser à un moment donné qu'il est une partie, il a une partie de cette représentation.
Oui, et sur ce dernier point, un aspect qui me semble particulièrement intéressant, le droit international de l'environnement, domaine de spécialité, va très exactement dans ce sens-là. On observe ces dernières années un mouvement, et j'étais particulièrement intéressée par vos propos sur la gouvernance, dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, hein, qui est des nouvelles technologies dont vous traitez, dont vous me faites. Dévoiler vraiment des trésors de réflexion. Le droit international de l'environnement, depuis quelques années, est très marqué par une recherche affichée de l'efficacité du droit. C'est devenu un axe, vraiment un déplacement d'axe dans le cadre de la réflexion dont l'histoire hein, du droit international de l'environnement, qui est beaucoup plus jeune, évidemment, que le système normatif français en particulier, il y a des années 70, il a été marqué par un emballement normatif absolument faramineux, noté hein, par les commentateurs, c'est une des branches du droit international qui a connu le plus de normes juridiques, quelle que soit leur nature, conventionnelle ou autre, mais une quantité de textes et d'élaborations qui a été phénoménale et qui a abouti au bout de deux décennies à peu près au constat d'une complexité impénétrable, d'un chevauchement et d'une inutilité décriée, c'est-à-dire que ça alimentait ensuite le moulin des critiques du droit international de l'environnement, considérant qu'il n'y avait aucune efficacité du fait d'une obscurité liée à cette complexité, cette surabondance de normes. Il était impossible de s'y retrouver, et donc les normes n'étaient pas appliquées, et donc globalement, la protection internationale de l'environnement resterait un vœu pieux et une grande utopie et qu'on ne dépasserait jamais le niveau des chevelus éparpillés des années 70 parce que ça, même avec cet alibi normatif international, les États ne faisaient que des grands rêves comme ça, en faveur de la protection internationale de l'environnement, l'alarme à l'œil, il faut le développement durable et il n'y a qu'à protéger les zones humides et autres éléments nécessaires des ressources naturelles. Aujourd'hui, depuis la fin des années 90, pour nous, c'est vraiment récent, les grandes conventions internationales, et ça a commencé dans le cadre des conventions de protection sur l'environnement global, c'est-à-dire des ressources uniques et partagées, ont donné naissance à des organismes, d'ailleurs ici à Montréal, des organismes internationaux tout petits, et orienté sur exclusivement le pragmatisme et l'efficacité des normes. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les normes qui ont été adoptées par les États dans le cadre du consensus conventionnel soient appliquées. Et ça a instauré tout un mécanisme de coopération profondément intégré avec un suivi à différents niveaux, un suivi de la norme elle-même dans son application. Et si la norme doit évoluer au gré des situations des États, de leurs relations entre eux, de leur situation individuelle ou régionale, alors la norme évoluera au fur et à mesure. Voilà. Donc, un monitoring qui fait évoluer la norme elle-même, et ça s'est traduit aussi dans vous parlez des techniques de management, et ça a été traduit par une forme de concentration dans le domaine de cette surveillance de l'application des normes, de l'apprentissage de tout ce qui pouvait provenir d'autres domaines, la science économique, mais aussi les techniques de management, tout ce qui pouvait apporter du nouveau, du sang neuf, un regard différent, et ça a conduit à des procédures de contrôle de la mise en application des normes, et qui ne sont pas des procédures de contrôle dans le sens où vous n'appliquez pas la norme, vous êtes hors norme, donc on vous sanctionne. C'est plus du tout dans ce mécanisme-là. Il y a de ça qui revient, mais dans un sens complètement décalé, c'est-à-dire que la sanction n'est pas une sanction nécessairement négative, c'est une conséquence du non-respect, et le non-respect est la conséquence du non-respect est en premier lieu positive. On va aider les États qui ne respectent pas leurs engagements conventionnels, on va les aider de manière à ce qu'ils puissent respecter leurs engagements conventionnels, parce que la majeure partie des situations de non-respect sont dues à une incapacité de respecter. Or, comme en matière de protection internationale des ressources uniques et partagées, le fait de sanctionner négativement un État qui ne respecte pas la norme qu'il a prise, la CPA, n'a aucun sens, on a voulu taper sur la tête, ça ne donnera rien, il ne respectera pas davantage s'il n'en a pas les moyens. En revanche, en développant des systèmes de fonds internationaux, d'assistance technologique, humaine, en termes de moyens, tout un panel et qui est utilisable comme un menu à volonté, c'est-à-dire qu'on va décider des solutions le moment venu. C'est imprégné d'un hyper pragmatisme et en quelques années à peine, ça fait une flambée. Hein. Dans l'ensemble des conventions internationales, il n'existe plus aujourd'hui aucune convention internationale en matière de protection de l'environnement qui n'inclut pas ces procédés de contrôle de la mise en œuvre et donc on ne parle que de ça, parce que ça associe les institutions internationales centralisatrices qui surveillent l'ensemble et les États eux-mêmes. Donc, l'équivalent de institutions individuelles dont vous parliez tout à l'heure, ça, puisque en plus, ça se croise avec des procédures à l'intérieur de l'État de participation des citoyens, donc on a un double niveau, de participation des citoyens aux techniques de protection de l'environnement qui elles-mêmes vont être relayées au niveau international. Voilà, mm-hmm. On retrouve mm-hmm.
Ah, c'est très intéressant. Vous avez écrit quelque chose là-dessus hein, mais... Vous voyez tout de suite la réaction.
Il y en a quelques-unes, plus des prémices, des débuts d'analyse, celles qui sont plus dans le contenu sont en cours. Ça devrait être pour
nous. Ah non, c'est très récent alors. Tout
ah oui, c'est vraiment, c'est des choses, ça fait l'objet d'un chapitre, ça a impliqué un chapitre entier de ma thèse de doctorat il y a 3 ans à peine. Alors que quand je l'avais commencé quelques années avant, c'était inconnu, quasiment inconnu. Pour vous dire, ça a commencé en 1992 dans le cadre du protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone. 1992, quelqu'un pose le point sur la table dans les fonctionnaires internationaux là, chargés de la mise en œuvre du protocole, pose le point sur la table en disant « ça suffit ». Ça suffit d'élaborer des normes comme ça dans tous les sens et de simplement constater derrière ben, les États respectent ou les États ne respectent pas. On va changer l'angle et on va voir le pourquoi et essayer d'aller comprendre le comment être dans la voie satisfaisante. C'est-à-dire que quelle que soit la complexité, on fait face à la réalité du monde. Très exactement ça. Faire face à la réalité du monde. Les États n'ont pas les moyens, on va faire en sorte qu'ils aient les moyens. Les États sont très différents dans leur situation face au droit, on va s'adapter à ces différentes situations. Voilà.
Est-ce que l'ONU est au courant, ça peut être...
Oui, mais ce sont pour l'essentiel des organismes, si ce n'est onusiens, en tout cas tous rattachés à l'ONU. C'est ce qui fait couler tant d'encre sur le protocole de Kyoto à l'heure actuelle, est lié à ça, pour votre part. C'est-à-dire que la complexité extrême du phénomène des changements climatiques a entraîné un instrument conventionnel très complexe lui aussi. Ça a été, l'un est lié à l'autre. Mais cette grande complexité-là, quand on la pénètre un tout petit peu, elle est en fait très exactement ça. C'est-à-dire l'élaboration très innovatrice de techniques faites pour prendre le monde tel qu'il est. Environnement et économie ont toujours été considérés comme deux entités blanches d'un côté évidemment, c'est Gaïa, la planète entière, ça ne peut pas être teinté de méchants éléments liés à l'économie qui sont tous connotés néolibéraux, exploiteurs, etc. Donc on ne peut pas lier les deux. Mais la réalité du monde, elle est dans ce lien-là. Le élaborer des techniques pour mettre en rapport l'un avec l'autre, et notamment avec ce qui aujourd'hui devient, dans un terme raccourci, les bourses de carbone. Ce qui, au regard
les
bourses de carbone, c'est-à-dire qu'on va mettre sur le marché, c'est en train d'être élaboré, les premières qu'on va voir, on élabore des crédits d'émission de gaz à effet de serre, qui sont ceux qui sont limités dans le cadre du protocole de Kyoto, chaque État parti a des limites d'émission de gaz à effet de serre, et quand dans ce qu'il arrive à respecter dans ses engagements, c'est-à-dire quand il est en dessous de ses émissions, il dégage des crédits. Et ces crédits, parce que l'essentiel, la planète est une, et le phénomène de l'émission de gaz à effet de serre est commun. On est très exactement dans le commun. Donc l'État qui va dégager des crédits va pouvoir les mettre sur la table commune en disant, moi j'ai des crédits, c'est-à-dire que moi j'ai fait baisser la totalité des gaz à effet de serre. Mais celui qui est rouge jusqu'aux oreilles, là, qui n'y arrive plus, qui ne peut pas, qui a ses usines, qui m'arrive, et qui ne peut pas respecter ses crédits d'émission, ses limites de crédits d'émission, oui, il va dépasser son quota. Mais tant qu'il reste dans la limite positive qui est offerte par le crédit de l'autre, alors on est dans un niveau général qui reste satisfaisant, qui reste dans l'objectif qu'on s'est fixé. Mais ça, il faut bien l'organiser sur le plan international. Et ça a été institué dans ce qu'on appelle aussi les bourses de carbone, c'est-à-dire qu'on attribue une valeur à la rareté du carbone.
Et ça, c'est pas monétarisé.
C'est monétarisé, si.
Ah bon, c'est pas un crédit.
C'est monétarisé, mais avec un système qui se veut axé non pas sur l'effort que vous allez faire pour exploiter et développer votre économie dans un sens traditionnel, mais qui va être, vous allez monétariser la rareté du carbone. Mmh. Donc moins il y aura.
Donc vous êtes responsable.
Voilà, vous êtes responsable, vous êtes responsabilisé. Dans un niveau comme un média évident, quand c'est présenté immédiatement, c'est-à-dire qu'on émet les droits de polluer.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ce qui, pour le citoyen lambda qui n'est pas du tout au fait de ces choses-là, est
profondément
choquant et horrifiant. C'est-à-dire que, globalement, les États-Unis ont gagné. C'est un des paradoxes de la chose d'ailleurs, c'est que ce système-là a été proposé par les États-Unis, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, l'Europe était radicalement contre, et c'est aujourd'hui l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les États-Unis ont refusé finalement de ratifier le protocole de Kyoto, et l'Europe est la première à avoir sur pied.
On pourra peut-être en discuter, ah, parce que je reste 2-3 jours là, ça m'intéresserait de discuter, mais je veux pas, c'est très intéressant votre exemple.
Mais oui, je suis désolée, j'ai peut-être un peu mobilisé la parole aussi.
Non.
Me passionnait tellement aussi.
Non, mais c'est les mêmes mouvements, hein. C'est les mêmes mouvements, ça.
Mais vous pensez... Ah, il y a une réduction, vas-y.
Je suis plus en informatique, je connais moins de droits, mais je sais pas, dans le champ de justice, j'entends parler de la question de la gouvernance sur Internet, vis-à-vis, si on peut dire, l'ancienne gouvernance par le droit, mais souvent quand j'entends les conférenciers parler, j'ai l'impression que les conférenciers, ils veulent que l'ancien droit, un peu, ils prennent comme modèle la nouvelle gouvernance sur Internet. Mais je me dis, pourquoi on ne verrait pas les deux plutôt comme des compétiteurs et qu'éventuellement, il y en a un qui pourrait détrôner l'autre dans certains domaines, et pourquoi pas juste laisser les choses aller et voir où est-ce que ça va se si l'outil actuel n'est pas adapté, mais qu'il y a un nouveau outil qui est en train de se développer sur Internet et qui semble bien fonctionner, pourquoi ne pas le laisser prendre le pouvoir qu'il est en train de prendre et voir ce que ça pourrait donner.
Oui, mais il y a des points de contact. Je veux juste vous citer un exemple, vous avez raison. On pourrait considérer que c'est les meilleurs qui gagnent, puis point barre, mais c'est plus compliqué que ça, hein, parce qu'il y a des interrelations entre les deux. Un exemple simple. Par exemple, les sociétés de gestion collective, je ne sais pas si vous, je ne veux pas vous embêter là-dessus, les SACEM en France, bref, je veux dire qu'elles ne sont pas très, en ce moment, elles sont d'ailleurs dans le coordinateur de l'Union européenne, hein, c'est pas très clair le fonctionnement, etc. Elles ne veulent absolument pas de ça. Elles ne veulent pas intégrer, par exemple, dans les contrats qu'elles proposent aux auteurs, que certains auteurs pourraient mettre une œuvre sur Creative Commons. Elles refusent même ça. On a discuté... dans le cadre de la préparation de cette loi, là, au ministère de la Culture, il n'y a rien à faire. Les sociétés d'auteurs, de gestion collective, considèrent qu'elles sont le rempart, elles l'ont peut-être été à un moment donné, pour l'auteur seul, qui était incapable d'aller dans tous les cafés pour voir combien de fois on avait joué son, son tango ou je sais pas quoi. Bien sûr qu'elles ont eu leur utilité. Mais maintenant, avec Internet, c'est vrai, déjà, cette utilité a changé. Et puis, il ne faut pas que ce qui était une protection avant, et ça, on voit très souvent dans les systèmes juridiques, ce qui était une protection devient un empêchement, devient une contre-liberté. Et c'est très bizarre, ce phénomène. Bon, c'était si vous voyez les fondements, enfin, les idées généreuses des sociétés de gestion collective, c'est pour permettre aux pauvres écrivains, ils travaillent tout seuls dans leur chambre, et dans le dénuement le plus total de pouvoir bénéficier d'un auteur, etc. Bon, oui, mais c'est plus ça du tout, là, non plus. C'est pour ça que les motifs même des lois, n'ont plus, à un moment donné, elles devraient, les motifs n'ont plus de sens. Et alors là, très concrètement, sur cette histoire-là, je vais vous dire, on est sur une affaire, en ce moment, on les aime bien, parce que le droit, c'est aussi des cas. Et France 2, l'émission envoyée spéciale, il y a un mois, ils ont pris un petit morceau d'une œuvre qui était sous Creative Commons. Ils n'ont pas cité Creative Commons, ils n'ont pas cité l'auteur, pas du tout. Alors l'auteur, c'est un jeune homme, je crois qu'il a 18 ans, il prépare son bac, ou je sais pas quoi, on lui a dit à un moment donné, tiens, ses copains lui a dit ça. Lui, il est complètement démuni, qu'est-ce qu'il... Alors, il a écrit à France 2, France 2 a dit, nous, on paie forfaitairement à la SACEM. Et donc, alors il dit, oui, mais moi, d'accord, mais moi, je n'étais pas sur le catalogue de la SACEM. Ah ben, alors France 2 dit, nous, ça ne nous regarde pas, vous allez vous arranger avec la société, avec la SACEM. Donc vous voyez, là, on est bien obligé de se rendre compte qu'il y a des verrous, hein, parce que les institutions, elles aiment bien aussi garder les intérêts pour elles, hein. Donc on est obligé de travailler sur les deux niveaux.
Surtout que la SACEM utilise, je pense, 20% des fonds d'LGBT pour son propre contenu. Donc ce qui est délirant.
Délirant, mais tu sais.
Délirant, mais c'est la même chose ici.
Ah non ?
La SOCAM, c'est au 15%. Les coûts associés aux organismes de gestion collective sont. Si l'entreprise devait avoir les mêmes niveaux de dépenses, ça serait faillite.
Non, mais c'est sûr que, bon, je pense qu'il y a à la fois des lourdeurs normales, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas très claires. Enfin, il faut dire ce qui est, hein. C'est pour ça que l'Europe voudrait... Et puis alors, par exemple, nous, à la dernière Assemblée Générale de Creative Commons, certains disent, bon, bah, écoutez, c'est simple, on va créer une société Creative Commons. Bon, c'est un peu... C'est vrai que se mettre à gérer tout ça, il faut des gens... Donc l'inertie, à un moment donné, elle va en faveur de celui qui est le plus ancien sur le marché, hein, c'est clair. Parce que c'est du bénévolat, Creative Commons, personne n'est payé pour ça.
Oui, moi je veux d'abord vous remercier pour votre conférence qui est introduite dans vos recherches de la pensée complexe de Guillaume Morin. J'ai cru comprendre que vous avez un projet d'écriture sur paradigme complexe en droit. J'ai fait moi-même un tel projet.
Ah oui, ça joue bien, oui. Vous êtes juriste?
Oui. J'étudie en France et ici aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'ai rencontré ici le seul vulgarisateur, Julien Morin, qui est québécois, je ne sais pas si vous connaissez.
Jean-Claude Gadon? Non.
Romain Fortin.
Ah.
Fortin de philosophie. Et moi, j'ai toujours été un peu effaré de voir que la pensée de Morin était assez marginalisée, boudée, tant par les sociologues que les juristes. Avez-vous eu le même sentiment et ça vous fait peur?
J'ai eu le même sentiment, hein, Morin, à la fois c'est très très bizarre, c'est quelqu'un qui avance seul, qui est au niveau de l'UNESCO, il fait partie des grands voyageurs dans toutes les grandes conférences, enfin c'est toujours lui qui introduit, etc. Mais en même temps, c'est vrai que sa pensée n'est pas du tout enseignée, en fait. Ce sont des phénomènes bizarres. Des gens très connus, tout le monde le connaît, très connus en Amérique latine, par exemple. Mais Personne n'enseigne. Alors pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans les disciplines. Ça, il n'y a rien à faire. Si vous ne raccrochez pas une discipline, il était sociologue, mais il ne veut pas se définir comme sociologue. D'ailleurs, dans la production à la pensée complexe, il dit, moi, mon problème, c'est que je ne veux pas me rater. J'ai passé la moitié, bon, moitié de sa vie, c'est déjà beaucoup, quand même, 80 ans, plus de moitié de... à me détacher d'une discipline, je ne veux pas y retourner. Et délibérément, il veut se situer entre l'économie, l'ingénierie, etc.
C'est une partie de la pensée complexe.
Ben oui. Donc il n'y a pas tellement de solutions parce que moi je trouve qu'on n'est pas du tout dans l'interdisciplinarité, on n'est pas du tout. Là aussi c'est des grands messes. Moi je vois même alors sur une organisme de recherche qui soi-disant promeut, mais c'est une catastrophe. Si vous êtes interdisciplinaire, par définition, vous êtes nulle part. Vous voyez ? Bon, on gère, hein, au bout du temps, on arrive à... Mais c'est compliqué, c'est vrai, l'interdisciplinarité, et cette pensée, un nouveau paradigme, parce que je crois qu'il a introduit ce nouveau paradigme, la complexité, comme ne se réduisant pas à la complication ou au simple, il a introduit. Bon, il y a quand même... Bon, il y a Jean-Louis Lemoyne aussi qui a fait des travaux. Oui, et puis maintenant, moi je m'occupe d'un programme, si ça vous intéresse, qui s'appelle Droit et système complexe, qui a été lancé par le ministère de la Recherche il y a 2 ans, sur l'introduction de la pensée complexe dans les sciences sociales et humaines. Et donc, moi, je travaille avec Paul Bourgine, je ne sais pas si vous voyez le CREA, et là, on essaie de modéliser, on a fait une école d'été, c'est dommage, on a fait une école d'été en Bretagne, là, en septembre, de 8 jours, et ça a fonctionné à un tonnerre de Dieu, et les jeunes thésards ou juristes qui étaient... On a d'ailleurs fait un rappel en février. Il y a 6 groupes qui se sont formés et qui sont complètement emballés. Ça régénère bizarrement. Ça régénère. Mais si vous voulez, je vous donnerai les coordonnées. Là.
D'autres commentaires? Moi, j'en aurais un. Vous ne croyez pas qu'un des obstacles à la mise en place de ces méthodes de traitement de la complexité dans la discipline juridique, c'est justement le fait que, d'une part, les juristes se réfugient dans un formalisme souvent un peu... enfin, que vous avez très bien expliqué, et tout le reste semble occupé par ces modes de pensée qui se réclament de l'éthique. Enfin, ici, vous savez, on parle d'éthique à peu près à propos de tout et rien. Et très souvent, d'ailleurs, dans beaucoup de cas, c'est simplement une façon différente de parler du droit, mais de façon complexe. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un blocage disciplinaire, institutionnel, que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le fait que quand on est dans une discipline, quand on n'est pas dans une discipline, on est nulle part. Mais est-ce que le danger, c'est pas que tout le monde, finalement, se réfugie derrière ce discours éthique qui, finalement, semble pas avoir une consistance particulièrement facile à cerner?
Mm-hmm. Oui, mais
je parle pas de l'éthique au sens où Morin l'entend dans son dernier ouvrage, mais je parle de l'éthique à toutes les sauces, là, c'est-à-dire lorsque les gens comprennent pas quelque chose, ils appellent ça de l'éthique, finalement.
Oui, mais ça c'est dommage parce que toutes les disciplines devraient intégrer dans leur technique, si on parle de technique, leur méthode, cette part d'indécis, d'imprécis, de... Bon, il y a un très bon auteur, je l'ai lu là, il n'y a pas très longtemps, c'est Abraham Moll, je ne sais pas si vous connaissez Abraham Moll. C'est passionnant ce qu'il dit, les sciences de l'imprécis. Lui, il a écrit ça en 53, hein, le premier texte, ça fait quand même 50 ans. C'est pas tout à fait nouveau. Lui, il dit que... La science, c'est de l'imprécision. Il renverse le paradigme. Or, c'est comme si nous, en tant que juristes, on dit le droit, c'est de la précision. Mais on peut dire exactement le contraire. La marge discrète. Moi, j'ai travaillé sur justement tout ce qui était imprécis en droit. Et Mireille Delmas-Marty, elle s'est fait taper parce qu'elle a travaillé sur le flou du droit. Je me souviens, c'est un de mes collègues.
mais la plupart, vous savez, la plupart des articles de doctrine qui se publient sont des articles qui dénoncent la soi-disant ou qui regrettent l'imprécision du droit. C'est assez, moi je trouve ça assez frappant. C'est-à-dire que les juristes eux-mêmes qui vivent de l'imprécision sont ceux qui passent leur temps à la dénoncer. Enfin, c'est pas clair. Et est-ce que ce n'est pas justement un indice de cet obstacle? C'est-à-dire, tant et aussi longtemps qu'on va faire du droit comme s'il ne devait pas y avoir de l'imprécision, on ne sera jamais capable de la comprendre. Or, la moitié de mes travaux que je corrige à chaque année, c'est de dire, les gens qui se plaignent qu'il y a de l'imprécision, et qui disent, c'est épouvantable, il y a de l'imprécision, il faudrait une loi de plus pour enlever l'imprécision. C'est comme ça que des générations entières de juristes sont formées ici, je pense que ça va être pareil en France. C'est-à-dire que, demandez à n'importe quel étudiant que vous allez interroger dans le corridor, le problème majeur qu'il va avoir, c'est de l'imprécision. C'est toujours ça. Alors, c'est quand même étonnant qu'on soit, on va dire, formé toujours des gens qui... Enfin, pourtant, on leur dit toujours que l'imprécision, ça fait partie de notre métier. Mais comment se fait-il qu'au final, tous les juristes finissent par être des gens qui veulent lutter contre l'imprécision? Sauf vous, finalement.
Non, mais il faudra peut-être carrément dire le droit, science de l'imprécision. Comme ça, au moins, on garde le mot science. Alors là, tout le monde, on va vous dire, le droit n'est pas une science. Alors, ça, c'est vrai. Et puis, non, mais l'imprécision, ouais, très bien. Particulièrement les gens qui ont travaillé dans les machines. Moi, je travaille avec des machines. Je travaille sur des systèmes experts, justement, par exemple, pour voir comment il fallait traiter cette imprécision. Et par défaut. Plus on se rapproche de la mécanique, de l'automatisme, etc., plus on est obligé d'avoir une réflexion sur les précisions. Notamment, bon, il y a quand même des tas de choses. Le pouvoir discrétionnaire est un concept extraordinaire. Moi, je trouve que c'est comme ça. C'est par là qu'il faudrait commencer les cours de droit. Il existe en droit un pouvoir discrétionnaire.
C'est formidable. Oui, mais il y a des gens qui considèrent ça obscène, le pouvoir discrétionnaire.
C'est le cours de droit administratif. Ouais. C'est pas la discrétion, c'est très encadré, le pouvoir discrétionnaire. Mm-hmm. Hein, c'est seulement que vous n'avez... Écoutez, le paradoxe, le pouvoir discrétionnaire, moi, je trouve merveilleux. Vous n'avez pas, si vous avez un pouvoir discrétionnaire, vous n'avez pas le droit de dire pourquoi vous avez pris telle décision. Si vous donnez des raisons quand vous avez un pouvoir discrétionnaire en droit administratif, c'est ça. Eh bien, vous pouvez être attaqué pour recours pour ce pouvoir. C'est tellement joli, ça. Vous avez le droit de ne pas dire les raisons de votre décision. Sauf erreur de droit, évidemment. Mais, non, je trouve qu'on pourrait... la marge d'appréciation, le rapport entre cour d'appel et tribunaux de première instance. Comment on peut expliquer autrement qu'en disant qu'il y en a un qui apprécie plus que l'autre? Parce que c'est ça, le problème, non?
Oui, mais quand vous partez, quand on part de l'idée, quand tout un appareil disciplinaire est conçu sur l'idée que c'est en soi mauvais, que c'est une sorte de mal nécessaire, on n'est pas dans de très bonnes conditions pour l'étudier.
Lorsque c'est
vu comme une sorte de mal nécessaire à l'imprécision, c'est ce qui reste. C'est le truc qu'on n'a pas réussi à éliminer, finalement. Et donc, il y a toujours l'impression que dans un futur plus ensoleillé, on va éliminer cette imprécision. Le droit va devenir plus parfait.
Mais ça, c'est Descartes. Ça fait beaucoup de mal, je veux dire. Mais oui.
La gouvernance, dont on en parlait tout à l'heure, comprend vers la définition du CNUD, des Nations Unies, etc., la question d'effectivité, d'efficacité et de la sécurité juridique. Il y a des investissements, tout ça pour éviter. Alors, à un moment donné, même la gouvernance qu'on oppose un petit peu, des fois, au droit, alors que du coup, elle va pas mourir, elle va s'y appuyer dessus. Elle-même aussi contre ça. Alors, est-ce que c'est les juristes qui ont vécu un peu là?
Oui. Là, peut-être, il y a aussi une dimension c'est comme si on arrivait aux limites, à l'emballement du monde de l'expertise. Le cloisonnement systématique entre des univers d'expertise, chacun ayant la sienne, qui s'approfondit avec l'avancée du temps, et bien qui ne va que dans cette course folle. À chaque fois qu'on va faire une loi de plus, on va combler éventuellement un espace, mais on va en créer un autre, donc il en faut deux autres, et puis cinq autres, ça devient exponentiel, le tout dans une culture cartésienne, bien sûr, qui oblige les juristes à, mais c'est vrai dans les autres disciplines. Ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'interdisciplinarité, vous avez profondément vécu en France, par certains visionnaires, ces tentatives d'instaurer des relations interdisciplinaires au sein des universités, avec au mieux un vernis, une apparence, une nomination dans les membres, une appartenance à différentes disciplines dans les membres d'institut. Je peux parler du Canada dans son ensemble, mais de Montréal de manière générale, mais l'Université de Montréal montre dans ce cadre-là, et en tout cas en ce qui concerne les questions relatives à la protection de l'environnement, un dynamisme, une réalité dans la l'interdisciplinarité qui a amené une, presque une fulgurance dans l'avancée de la réflexion.
Ah, je pense que tu viendras, et ça sera sur le site internet.
Ah, oui, oui, ça ne sera pas censuré.
Cette interdisciplinarité, là, elle est extrêmement sensible.
Non, mais c'est bien.
Une dernière remarque peut-être, est-ce que tu...
Pour revenir à la précision, parce que même en science, la précision absolue n'existe pas. Quand dans une mesure, il faut toujours donner une échelle, et souvent, si on veut être précis, il faut toujours dire, mais bon, plus ou moins 0,0001 erreur, mais il n'y a pas de mesure parfaite, précise à 100%. C'est dans le sens d'une échelle qu'on se donne pour définir la précision.
Mais ça, c'est très juste. Hein. Ouais. Ouais.
Bah écoutez, il y a une chose, hélas, qui demeure fort précise, c'est malheureusement l'écoulement du temps. Écoutez, merci Daniel Boursier pour cette présentation tout à fait stimulante qui ouvre beaucoup de perspectives. Merci à vous tous pour d'avoir participé à cette discussion. Et ma foi, à une prochaine occasion. Il reste peut-être même quelques victuailles si jamais le cœur vous en dit. Alors, merci et à bientôt.